Radio Okapi.
Les informations présentées par Gisèle Cage.
Mesdames, Messieurs, quel plaisir de vous retrouver une fois de plus sur les ondes de Radio Okapi. Nous sommes ravis de vous accueillir pour une nouvelle édition de notre journal. Voici les principaux titres de notre actualité de ce jour. La MONUSCO se félicite du lancement de l'opération de transport de plusieurs centaines des soldats des FARDC et des policiers de la PNC, ainsi que quelques dépendants depuis ses installations à Goma vers Kinshasa. Ce dispositif est rendu possible grâce à son appui logistique et au rôle clé d'intermédiaire neutre assuré par le Comité international de la Croix-Rouge. Les détails dans ce journal. La journée nationale de l'enseignement marquée par la crise sécuritaire au Nord Kivu où des nombreux enseignants sont impayés depuis janvier. L'intersyndicale de Massissi interpelle la ministre de l'enseignement et nouvelle citoyenneté pour qu'elle honore sa promesse. Réhabilitation des axes routiers dans la zone tampon du parc national de la Lomami. Entretien exclusif avec Radar Birachiroa Nishuli, directeur provincial de l'ICSN, sur les motivations et les enjeux de ces initiatives cruciales. Entretien à ne pas manquer. Commençons ce journal par le Nord Kivu où le Comité international de la Croix-Rouge, CICR, annonce le début ce mercredi du transport de Goma à Kinshasa des centaines de personnes désarmées appartenant aux forces gouvernementales de la RDC. L'annonce a été faite ce matin à Goma lors d'un point de presse animé par Myriam Favier, chef de sous-délégation du CICR. On l'écoute dans cet extrait.
Dans ce cas précis, le CICR a été approché par les différents acteurs, notamment le ministère congolais de la Défense nationale et des anciens combattants, la MONUSCO et l'Alliance du fleuve Congo, mouvement du M23, pour agir comme intermédiaire neutre. Le CICR ne fixe pas les termes de la négociation, mais offre ses bons offices pour faciliter la mise en œuvre de l'opération. Au terme de l'accord conclu avec le CICR, les acteurs concernés ont pris l'engagement d'assurer la sécurité des personnes faisant partie des convois et d'œuvrer pour la réussite de l'opération. Le CICR s'est aussi assuré que toutes les personnes ont consenti à être incluses dans ce transport. Le CICR en appelle, au vu de la complexité de cette opération et des risques qui y sont associés, au respect du droit international humanitaire et au sens de responsabilité de tous les acteurs.
À ces propos, justement, la MONUSCO se félicite du lancement de cette opération de transport de centaines d'éléments non armés, membres de forces armées de la RDC, de la police nationale congolaise, ainsi que des quelques dépendants depuis ses installations à Goma vers Kinshasa. Dans son communiqué de presse publié ce mercredi, la mission de l'ONU indique que cette opération sensible intervient après plus de 3 mois de protection continue assurée par la MONUSCO au FARDC et à la PNC réfugiés dans ses bases depuis la prise de Goma par le M23 fin janvier 2025. Grâce à Mouzati pour les détails.
Selon ce communiqué, conformément aux règles des Nations Unies, tous les individus sous protection de la MONUSCO avaient été désarmés. Malgré l'environnement extrêmement volatile et les pressions sécuritaires, la MONUSCO a réussi à garantir la sécurité, l'intégrité physique et le bien-être de ces personnes sur la durée, en conformité avec son mandat établi par le Conseil de sécurité de l'ONU, souligne le communiqué. Bruno Lemarquis, représentant spécial adjoint du secrétaire général et chef par intérim de la MONUSCO, déclare, je le cite, « Le travail accompli par nos équipes sur le terrain pour protéger ces individus dans un contexte aussi tendu témoigne de l'engagement de la MONUSCO à remplir son mandat, même dans les circonstances les plus critiques. Nous remercions le CICR pour son rôle déterminant d'intermédiaire neutre et a permis de faciliter la mise en œuvre de cette opération complexe avec l'accord de tous les acteurs concernés. » Fin de citation. Le transport des membres de FARDC et de la PNC vers Kinshasa, où ils seront pris en charge par les autorités nationales, s'effectue avec leur consentement sous la protection des conventions de Genève. Bruno Lemarquis appelle ainsi l'ensemble des parties impliquées à respecter le droit international humanitaire et à tout mettre en œuvre pour garantir le succès de cette opération complexe.
L'actualité, c'est aussi la célébration, ce 30 avril, de la Journée nationale de l'enseignement. Cependant, cette année, il n'y aura pas de grande célébration en raison de la situation sécuritaire qui prévaut dans le pays, notamment dans l'Est et dans les zones occupées. Pendant ces temps, en Nord Kivu, les enseignants des territoires de Masisi, Rutshuru et Nyiragongo n'ont pas reçu leur salaire depuis janvier jusqu'à ce mois d'avril. Ces enseignants devraient recevoir leur salaire par voie électronique pour subvenir aux besoins de leur famille pendant cette période de crise sécuritaire qui empêche les opérations de paye normale via la Caritas. Après une longue attente dans des conditions très difficiles, l'intersyndicale des enseignants de Masisi a à nouveau sollicité la ministre de l'enseignement et nouvelle citoyenneté dans une correspondance datée du 28 avril. Gloria Lutula nous en dit plus.
Dans cette correspondance signée par le président du Fosinat et l'intersyndicale de Masisi, ces enseignants expriment leur crainte de continuer à attendre alors que leur famille crève de faim depuis 4 mois. Toute la procédure, notamment la remise de procuration, numéro de téléphone et autres, n'a rien donné jusqu'ici. Ces enseignants exigent le paiement de leur salaire de 4 mois en déant 48 heures, faute de quoi une plainte sera déposée contre tous les complices. Ils exigent en outre la délocalisation de la paie des salaires des enseignants de Masisi qui étaient jusqu'ici versés à la Caritas vers une autre banque à partir du mois de mai prochain. En cas de non-réalisation de ces revendications, les enseignants déclarent se réserver le droit de boycotter toutes les activités scolaires pédagogiques et évaluatives sur toute l'étendue du territoire de Masisi. Nous n'avons pas réussi à joindre le proviseur de Nord Kivu 3 basé à Walikale qui gère les écoles de Masisi. Cependant, son collègue du Nord Kivu 1 rassure tous les enseignants des territoires concernés que le travail est terminé et dès la semaine prochaine, la paye pourrait commencer telle que prévue.
Dans le même chapitre, l'association des professeurs de l'université de Kinshasa exprime sa satisfaction face à la décision du conseil de ministres de réexaminer toutes les décisions antérieures restées inappliquées. Ce mardi, dans une déclaration, le président de l'association a souligné plusieurs problèmes non résolus. Le professeur David Loubeau a notamment mentionné le dossier de véhicules et la mécanisation des nouveaux docteurs. Écoutons ses propos au micro de Alain Irung.
C'est ici qu'il faut rappeler que dans beaucoup de cas, le gouvernement a toujours régimé en sourdine. Les accords sont signés pour éviter parfois les ennuis avec le monde syndical. Vous pouvez imaginer que depuis 2022, que nous avons signé l'accord de Bibois 1 et l'accord de Bibois 2 en 2024, jusqu'ici, trop peu de résultats. Et le reste là, on ne sait même pas quand est-ce qu'on applique. Et parfois, on n'avait même pas de répondants. On écrit, on n'a pas de réponse. On parle, on n'est pas entendu. On demande des audiences, on n'est pas reçu, sauf pour les cas exceptionnels. C'est ici qu'il faut rappeler qu'il y avait le dossier véhicule qui consistait à couvrir le manque à gagner depuis 2017. Et pour ce dossier, le chef de l'État a instruit le gouvernement pour chercher un crédit. Et jusque-là, on ne sait pas, est-ce un entêtement, est-ce qu'un refus, un sabotage ou encore tout simplement une désobéissance à l'ordre donné par l'autorité suprême.
Parlons à présent de l'opération de démolition des constructions initiées par l'hôtel de ville dans la commune d'Ingaliema. De nombreuses familles s'y retrouvent sans abri et passent la nuit à la Belle Étoile, à la gare de Kintambouesla. Depuis samedi, elles affirment avoir tout perdu et ne savent pas où aller. Selon le gouvernement provincial, cette opération de démolition des constructions anarchiques vise à récupérer les espaces de l'État spoliés par des particulier. Plantin Yambenga et Fatih Tienda nous présentent ce reportage.
La gare de Kintambo présente une nouvelle image près de 48 heures après les travaux de démolition des maisons amorcés par l'hôtel des villes. Des débris des habitations mais aussi des biens jonchent les sols. Matelas, réfrigérateurs, réchauds, armoires, tout est perdu. Ces pères des familles, habitant les sites depuis plus de 20 ans, revient sur les scénarios qu'il a vécu les dimanches.
En arrivant vers chez moi là-bas, il y avait déjà un mur que l'ONATRA avait érigé, disant que c'est la fin de l'ONATRA. Mais le dimanche, subitement, ils sont venus, sans même nous avertir. Ils ont commencé à démolir par chez moi. Ils ont tout j'ai tout perdu, même le véhicule est là. Je ne sais même pas le récupérer. À 19h, s'il vous plaît.
Cette jeune dame, âgée d'une vingtaine, trouvée sur les sites, essaye de récupérer quelques biens de la maison qui traînent encore sous les décombres.
Maintenant, là, nous sommes dehors. On passe la nuit à la Belle Étoile avec les Kuluna. Personne ne nous sécurise. On a volé presque tout.
Ces travaux ont aussi touché les activités commerciales de certains occupants qui disent détenir des documents de l'ONATRA.
Ils ont démoli ma maison. Les locataires me réclament leur garantie que je ne suis pas en mesure de verser. J'avais un restaurant, un lounge-bar. Je dispose d'un numéro de registre de commerce.
Sachez que ces travaux de démolition ont été lancés en vue de réhabiliter les chemins de fer reliant la gare centrale à Kintambo. C'est dans les soucis de rendre fluide la circulation dans ces coins de la capitale.
Kinshasa, toujours un atelier de deux jours a débuté ce mardi au quartier Kingasani à Souka, visant à identifier les divers problèmes de la commune de Kimbaseke, les zones les plus touchées, et à proposer des solutions concrètes. L'objectif est d'élaborer un plan local de sécurité pour Kimbaseke en collaboration avec les habitants qui vivent ces réalités au quotidien. Les thèmes abordés incluent l'insécurité, l'insalubrité, les inondations, les violences basées sur le genre, l'insécurité foncière et l'urbanisme anarchique. Cet atelier est organisé par l'ONU Habitat, l'agence japonaise pour le développement, la police nationale et la commune. Étienne Lissoumbou nous en dit plus.
Chefs de quartier, des rues et des jeunes sont nombreux dans ces travaux qui visent au final à faire de leur commune un espace où il fait bon vivre. Au quartier Maloa par exemple, c'est plus le banditisme qui trouble la quiétude des habitants. C'est ce que soulève Kongangomba, chef de ce quartier.
Il y a le manque d'emploi, le chômage. Et surtout les jeunes qui font de Kuluna n'ont pas d'occupation. Les parents ont abandonné leurs responsabilités. Et certains parents même, ce sont ces enfants-là qui les nourrissent.
Ce projet de faire participer différents acteurs de cette commune à l'élaboration du plan local de sécurité est salué par son bourgmestre. Paul Kimbolo, point focal de l'ONU Habitat, revient ici sur les bien fondés de cette rencontre.
La commune de Kimbanteke était la commune la plus criminogène de la ville de Kinshasa. La raison pour laquelle, dans le cadre de l'avènement du projet en appui à la réforme de la police, la PNC, avec le gouvernement congolais, a orienté l'expérimentation de la police de proximité dans la commune de Mbanté.
Ces travaux rentrent dans les cadres d'un vaste projet de police de proximité, dit P4P, dont Kimbaseke est la commune pilote. Elle a été choisie notamment à raison de la présence de ses nombreuses poches d'insécurité et d'insalubrité, d'après le colonel Rigobert Ngoma, coordonnateur de ces projets.
Le député national Marcel Ndando Ekutu a soumis hier mardi une question orale avec débat au bureau du président de l'Assemblée nationale adressé au ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux publics. Il exprime ses préoccupations concernant l'aggravation alarmante des érosions dans la ville de Lissala, située dans la province de la Mongala. Dans sa correspondance, l'élu de Lissala demande au ministre Alexis Guissaro des explications détaillées sur ce qu'il perçoit comme une indifférence du gouvernement central face à ces défis environnementaux. Écoutons les députés Marcel Ndandou Ekutu dont cet extrait proposé par Grace Hamzati.
Vous savez, la situation de l'érosion de Lissala ne date pas d'aujourd'hui. Cela fait plus de 40 ans que cette situation persiste. Il y a eu plusieurs gouvernements qui sont passés, mais aucun gouvernement a eu l'idée de trouver des solutions à cette situation. Ça commence à déranger parce que il y a eu des morts, il y a eu des destructions que nous gérons jusqu'aujourd'hui. Vous savez, la fois dernière, j'étais au cabinet des ministres d'État, ministre Edith Eper, où j'ai posé les mêmes problèmes. Mais le ministre nous a promis qu'il y aura une solution. Malheureusement, cela fait plusieurs mois, il n'y a pas de solution. La semaine dernière, la pluie a encore frappé et ça a créé encore des problèmes pour cette population. Nous avons dit non, ça ne peut pas continuer. Parmi les fonctions du gouvernement, c'est trouver des solutions à des problèmes de la population. Et nous constatons que le problème de Lissala ne concerne personne et il n'y a pas de solution.
En Ituri, les notables Emma et Lendu ont finalement décidé de reprendre les activités commerciales au marché des Ouda, situé dans le territoire de Djougou. Ce grand carrefour commercial avait été fermé le mois dernier en raison de l'activisme de groupes armés Codeco et Zaïre qui avaient entraîné de pertes humaines, des déplacements des populations et des pillages. Avant hier, la MONUSCO, par l'intermédiaire de sa section des affaires civiles, a réuni le parti pour discuter de la réouverture de ce marché et favoriser ainsi la cohabitation pacifique. Le point avec Ezekiel Mouzalia.
Le marché des Djouda constitue un centre économique d'intérêt stratégique qui favorise le rapprochement des populations marchandes ainsi que des notables des secteurs d'Olendou, Djatsi, Tatsi, Pitsi ainsi que la chefferie de Baïma Nord et une grande partie de la chefferie de Baïma Badjéré. Au cours de cet échange, le représentant du chef des secteurs d'Olendou, Pitsi, note qu'au-delà de la rouverture de ces marchés, de nombreux habitants sont désormais libres de circuler de part et d'autre, ce qui permet de désenclaver certaines entités.
Les gens étaient enclavés vraiment. Ils n'avaient pas les pommes de terre, les maïs que les gens produisaient sur les champs, vu que la région est vraiment à caractère agricole.
Même souhait également du côté du président des jeunes de la chefferie de Baïma Nord qui salue la tenue de cette rencontre. Logo Bamaraki plaide pour le renforcement des mécanismes sécuritaires dans les champs des agriculteurs, en majorité des déplacés du site d'Héro.
Nous avons nos familles qui meurent de faim dans le site d'Héro. Presque tous les articles viennent de là. Pommes de terre, huile végétale, sans sécurité sur cette route, il n'y aura rien qui peut se faire ici.
Les deux parties ont convenu de rencontrer les leaders des groupes armés pour leur demander d'instruire leurs hommes afin qu'ils arrêtent de s'attaquer aux civils et préserver la paix dans la région. Bounia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, les attaques se sont multipliées à l'encontre de l'Afrique du Sud, devenue l'une des cibles de choix du président américain. Parmi ses principales critiques, le pays maltraiterait sa minorité blanche, invité à venir se réinstaller aux États-Unis en tant que réfugié. Il est épaulé par Elon Musk et qui ne parvient pas à lancer sur place sa société Starlink. Ses 100 premiers jours de présidence Trump n'ont donc pas été de tout au repos pour Pretoria. Déjà, lors de son premier mandat, Donald Trump dénonçait ce qu'il qualifiait de confiscation des terres aux fermiers blancs sur fond sur les théories des génocides des blancs aussi partagées par Elon Musk. Les deux hommes reprochent à l'Afrique du Sud ses politiques de redistribution des terres, bien que Pretoria démonte toute confiscation arbitraire. Le chef de l'État sud-africain Cyril Ramaphosa a pu récemment échanger par téléphone avec son homologue américain et selon la présidence sud-africaine, il est prévu que les deux hommes se rencontrent sous peu.
L'invité.
Notre invité aujourd'hui est Radar Birashirwa Nishuli, directeur provincial de l'Institut congolais pour la conservation de la nature, l'ICCN avec le soutien financier de KFW, établissement de crédit pour la reconstruction. On vient de réhabiliter plusieurs axes routiers dans la zone tampon du parc national de la Lomami. Ces travaux comprennent 56 km sur l'axe Ndingi-Bafundo, 6 km sur l'axe Ndingi Chombekilima et 6 km sur l'axe Ndingi Lukando. Dans cet entretien exclusif avec Florence Kizalunga, Radar Birashirwa Nishuli nous dévoile les motivations derrière ces initiatives cruciales. Suivez.
Monsieur Radar Nishuli, bonjour.
Bonjour, madame la journaliste.
Monsieur Radar, c'est dans quel cadre que ICCN a tenu à réhabiliter ces 68 kilomètres dans la zone tampon du parc national de la Lomami?
Vous savez, la Lomami est la seule aire protégée de la RDC qui a été créée avec sa zone tampon. Cela veut dire que nous ne pouvons pas protéger seul ce parc sans la contribution de communautés qui vivent autour de cette aire protégée. Et quand nous avons fait des études socio-économique, on a trouvé que même si on a mené le développement dans ces zones-là, il est pratiquement difficile de parler de développement là où il n'y a pas de route. C'était des petits sentiers, même les vélos passaient difficilement. C'est comme ça que nous avons décidé avec les communautés d'ouvrir les 68 kilomètres. C'est pas tout, hein, mais c'est déjà un bon début. Puisqu'on se disait, les communautés veulent faire des activités de développement, des activités génératrices de revenus, mais même s'ils font l'agriculture, comment ils vont écouler leurs récoltes? C'est comme ça que on s'était mis ensemble, on a décidé de rouvrir les 68 kilomètres d'abord.
Pour ICSN, quel avantage ou importance de ces routes?
Pour l'ICSN, vous savez, c'est que nous protégeons pour la population, mais c'est la population pour laquelle nous protégeons qui vient détruire encore ce que nous protégeons pour elle. L'ICSN profitera de cette route pour contrôler le trafic. Deuxième chose, avec le gouvernement provincial, nous nous sommes dit que d'ici l'année prochaine, on va tester le premier tourisme au parc national de la Lomami. Et sans route, il n'y aura pas le tourisme. C'est-à-dire du point de vue touristique, génération de revenus, nous avons besoin de ces routes.
En réhabilitant seulement 68 kilomètres, vous pensez vraiment améliorer la situation économique de cette population?
Ah, déjà, les déclarations de communautés qui ont reçu déjà cet appui, ils vous diront que nous sommes désenclavés. Puisque là où une moto prenait 6 heures, 8 heures, aujourd'hui la moto est en train de faire 3 allers-retours la journée. Et là où ils consommaient 3 litres d'essence, ils sont en train de consommer 1 litre. Il y a quand même quelque chose qui a augmenté. Je ne peux pas dire que nous avons résolu le problème, mais c'est déjà un bon début. Nous pouvons nous dire que c'est le début du commencement.
Oui, monsieur Radar, vous avez travaillé ICSN en partenariat avec KFW et WHH qui sont arrivés fin projet. Comment est-ce que vous allez continuer et quelle sera la prochaine étape?
Fin projet, c'est peut-être trop, puisque la KfW, qui est la banque financière de l'Allemagne, il continue à nous appuyer. Et avec le WHH, oui, le projet, dans sa phase de réhabilitation, a pris fin. Maintenant commence la phase d'utilisation de la route qui concerne maintenant le parc et les communautés, et le gouvernement, bien sûr. Donc, WHH a fini sa mission de rouvrir les routes, mais KfW reste avec nous dans le cadre des activités de développement et dans les activités de la protection du parc.
Quelle politique vous avez mise en place pour l'entretien de ces routes? Parce que la route sans entretien, ce n'est rien.
Une très belle question. Hein. Je pense que vous avez suivi le gouverneur de province. Il a dit que cette semaine, il va signer un arrêté qui définit les modalités de fonctionnement des CLER, les comités locaux d'entretien routier. C'est une façon de responsabiliser les comités locaux pour qu'ils s'approprient l'entretien. Déjà, nous leur avons demandé d'ouvrir leur compte bancaire. On va y verser quelque chose. Les 3 mois qui suivent l'arrêt, qu'ils peuvent être en train de fonctionner en attendant que le gouvernement trouve des moyens plus conséquents pour les accompagner dans l'entretien de la route.
Qu'en est-il alors du tronçon Dingi-Kindu?
Tronçon Dingi-Kindu, le parc a une nivelleuse, un bulldozer. Nous sommes prêts à mettre à la disposition du gouvernement provincial ces 2 machines pour aider à rouvrir aussi la route Kindu-Dingi. Sous une seule condition, le gouvernement paye du carburant, il paye le machiniste et nous, notre contribution comme parc, c'est disponibiliser les machines. Et le gouverneur a promis que d'ici entre mai et juillet, il va étudier cette opportunité-là et voilà.
Monsieur Radar Nishuli, merci.
C'est moi qui vous remercie.
Radar Birachiroa Nishuli, directeur provincial de l'Institut congolais pour la conservation de la nature au Maniema, s'entretenait avec Florence Kizalunga depuis la ville de Kindu. Nous arrivons à la fin de ce journal. La mise en onde a été assurée par Alain Goy avec la coordination de Jude Mister Bilanda et la supervision Pelekipe Lamondo à la présentation Gisèle Cage. Merci de tout cœur pour votre fidélité à Radio Okapi. Nous vous souhaitons de passer une agréable journée en compagnie de programmes de votre radio.